Histoire vivante. Anaïs Kien.
Épisode 2. Le nazisme, l'ombre de la Première Guerre mondiale et la naissance d'un parti.
Meine deutsche Jugend, wir können eine Generation von Muttersöhnchen, von verzogenen Kindern nicht brauchen.
Le nazisme, c'est un ensemble d'idées, une interprétation du monde, mais c'est aussi un parti politique, avec ses leaders, ses militants, ses pratiques, ses croyances, ses mythes fondateurs et sa culture propre. Un parti qui se constitue progressivement sur les ruines de la Première Guerre mondiale. Et cette guerre, elle est fondatrice du lien au nazisme pour ses militants. Qu'ils soient anciens combattants ou pas. Nicolas Patin est historien et maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montaigne.
Alors, il faut tenir un équilibre, puisque en fait, il y a une série d'évidences. La première, c'est que si on regarde, ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de l'histoire, la Première Guerre mondiale depuis le Troisième Reich et depuis ce qu'on sait du nazisme, quasiment tous les plus hauts responsables nazis ont fait 14-18, à commencer par Hitler, 4 ans dans les tranchées, mais aussi Hermann Göring dans l'aviation, le chef des SA, Ernst Röhm, plusieurs fois blessé. Donc on a l'impression, quand on regarde par anachronisme depuis les conséquences, que 14-18 a produit le nazisme. La deuxième manière de regarder, c'est de regarder depuis 14-18, ce qui est plus logique du point de vue chronologique, mais auquel cas on se rend compte que tout le monde a fait 14-18, l'Europe entière, les Français, les Italiens, 75 millions de soldats au total, 13 millions en Allemagne, 8 millions en France, et tout le monde n'est pas devenu nazi. Et donc il faut tenir cet équilibre, de bien comprendre que la violence du premier conflit mondial, une violence qui n'avait pas été anticipée et qui va percuter, détruire, couper littéralement en deux les corps des humains, des animaux, cette violence-là, elle est une condition nécessaire mais pas suffisante du nazisme. Et de ce point de vue-là, il faut bien se rendre compte que quand on veut faire une histoire des mentalités des acteurs, chez un Hitler, chez un Ernst Röhm, chez la plupart des nazis anciens combattants, pour eux, 14-18, c'est un des moments fondateurs. Mais il faut évidemment prendre la distance par rapport à ce discours et bien se rendre compte que pour d'autres soldats, notamment à gauche du spectre politique, c'est un moment fondateur aussi. Mais pourquoi ? Pour détester la guerre, devenir pacifiste et vraiment espérer la der des der. Donc voilà un peu le rôle de 14-18. C'est en même temps, dira Ernst Jünger, le grand écrivain nationaliste allemand, c'est la grande école de la violence. Et en même temps, ça ne contenait pas en germe l'intégralité du nazisme.
Ce qui joue un rôle moteur dans les discours dispensés par le nazisme, ce n'est pas la Première Guerre mondiale en elle-même, c'est son interprétation, et surtout sa dernière année. Nicolas Patin.
Les nazis se présentaient eux-mêmes comme une émanation de la guerre. Et même Ernst Röhm, à un moment donné, quand il voit la victoire des nazis au Reichstag, il dit « les soldats des tranchées entrent à l'Assemblée nationale ». Ce qui est une absurdité. Il y avait des anciens combattants dans les rangs communistes, dans les rangs socialistes, dans les rangs de la droite, etc. Donc c'est vraiment, il y a une tentative d'usurpation par les nazis de l'héritage des tranchées. Alors comment tout ça s'est transformé, et c'est là où c'est intéressant, c'est que les nazis vont réussir à politiser le mythe de la guerre, pas tout seul, à travers une série d'événements, la grande densité des événements qui se succèdent, mais ils vont utiliser ces événements-là, traumatiques, de la guerre et de la sortie de guerre, pour créer voilà, cette culture nazie. Ces événements, quels sont-ils? Et dans l'ordre qui va suivre, la guerre, bien sûr, et sa violence, la défaite militaire, puis la révolution de 1918, cette révolution allemande qu'on oublie souvent parce que on a en tête la révolution russe de 1917, mais qui est une révolution à part entière, qui commence le 3 novembre 1918 à Kiel, avec une mutinerie des matelots des chantiers navals, et puis qui, telle une traînée de poudre, va conquérir l'ensemble de l'Allemagne et faire chuter la monarchie. Alors pourquoi je dis que ces trois événements, il faut les avoir en tête, non seulement pour comprendre l'Allemagne, mais pour comprendre le nazisme, c'est qu'en réalité, Ils s'enchaînent de manière très simple et compréhensible. La guerre, cette guerre totale, cette guerre de tranchées, va aboutir à l'épuisement des forces allemandes, qui aboutit à la défaite. C'est une défaite militaire. L'Allemagne et son allié, l'Autriche-Hongrie, sont défaites, notamment à partir de la mi-août. Et en fin septembre, les autorités militaires reconnaissent la défaite. Et ensuite intervient la révolution allemande. La révolution est fille de la défaite. Sauf que pour l'extrême droite allemande, et à l'époque, Hitler et les autres, le nazisme n'existe pas en tant que tel. C'est des individus de l'extrême droite allemande qu'on appelle, voilà, cette nébuleuse Völkisch, c'est-à-dire, voilà, une extrême droite raciste. Toute cette extrême droite-là, au lieu de percevoir la réalité historique telle qu'elle est, guerre, défaite, révolution, va inverser cette réalité historique, va inventer une théorie du complot qui consiste à dire guerre, révolution, défaite. Qu'est-ce que je veux dire par là ? À mettre sur le dos de la révolution allemande la défaite de cette guerre, et cette défaite, elle est intolérable pour ces soldats-là, elle est impossible à regarder en face, donc c'est plus facile de fuir dans la théorie du complot, dans ce qu'on appelle le coup de poignard dans le dos, le mythe du coup de poignard dans le dos. Et ce mythe, je viens de l'énoncer, les soldats allemands, les bons soldats allemands nationalistes de la grande bourgeoisie et de la bourgeoisie de l'époque, donc voilà, on est dans l'Allemagne de Guillaume II et de Bismarck quelques années auparavant, ces soldats-là, quand ils voient arriver la défaite, ils ne peuvent pas l'affronter et ils la mettent sur le dos de la révolution. Alors que chronologiquement, ça n'a pas de sens puisque la révolution arrive un mois après la défaite telle qu'elle est reconnue par les élites militaires. Ce mythe du coup de poignard dans le dos, il est distribué politiquement de manière de plus en plus radicale. C'est-à-dire qu'au centre, on se dit « Ah oui, quand même, c'est un peu la faute de la révolution ». Et puis plus on va vers l'extrême droite, plus c'est la faute non seulement de la révolution, mais donc des socialistes et des communistes. Et puis, bien sûr, des juifs. Alors pourquoi je dis « bien sûr » ? Parce qu'il ne faut pas oublier, bon ça c'est des éléments évidemment qu'on apporte dans le livre, qu'à ce moment-là, qui est en train de débarquer dans l'Allemagne de l'époque ? Tous les exilés de la révolution russe de 1917, tous les blancs, ces blancs qui se sont battus contre les rouges, on pense à la peinture de Lissitzky, et ces blancs-là, ces grands nobles, les opposants aux bolcheviques, qu'est-ce qu'ils ramènent dans leur valise ? Le mythe du judéo-bolchevisme, de la révolution portée par les juifs. Et là on voit le cataclysme. On voit se mettre en place la matrice, cette naissance d'une culture d'extrême droite qui sera ensuite nazie, à savoir cette interprétation de la catastrophe et des catastrophes allemandes à travers le prisme de la théorie du complot. Tout est de la faute de la révolution, tout est de la faute des communistes et tout est de la faute donc des juifs. Les nazis n'arrêteront pas dans les années 20 et après de parler des criminels de novembre, c'est-à-dire vraiment cette élite républicaine qui a mis en place la République de Weimar et qui est censée avoir vraiment porter la responsabilité de tous les échecs et de toutes les catastrophes. Donc on voit comment cette séquence, la guerre qui est terrible pour toute l'Europe, la défaite qui est encore pire pour les pays qui vont être défaits, et puis cette révolution-là va constituer un creuset de l'identité politique de l'extrême droite allemande et puis après du nazisme.
La Première Guerre mondiale joue un rôle fondateur dans le discours que les nazis mettent au point sur ce qui les rassemble. Mais le moment où le nazisme naît, très concrètement, c'est la République de Weimar. Le régime politique allemand après la chute de l'Empire et la défaite de 1918. C'est dans ces années 1920 qu'a lieu le putsch manqué de la brasserie et qu'Hitler écrit Mein Kampf l'année suivante, depuis sa cellule d'une prison bavaroise.
On a toujours tendance, et c'est logique puisqu'on regarde souvent les années de la République de Weimar, on ne devrait pas le faire, mais on le fait depuis les années du Troisième Reich, pour comprendre des causalités en fait. On revient toujours un peu à Weimar. Et quand on fait ça, on a l'impression qu'il y a des nazis partout. On a l'impression que le NSDAP, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, est partout. On parle du putsch de la brasserie, on parle de Mein Kampf, comme si c'était un livre que tout le monde avait lu. Sauf que quand on travaille sur la culture politique de l'époque telle qu'elle est, le nazisme, c'est rien du tout. Et c'est non seulement rien du tout dans le paysage politique général, où il y a des partis très installés, immensément plus puissants. On pense évidemment à la social-démocratie, le SPD, mais aussi au Parti catholique, le Zentrum. Mais le parti nazi, c'est aussi rien du tout, y compris dans l'extrême droite de l'époque, qui comprend des dizaines de groupements qui aujourd'hui, dont on a oublié le nom, hein, mais qui sont très très importants et qui dépassent en termes de nombre largement le nazisme. Un des exemples, c'est le plus grand parti politique d'extrême droite de l'époque, les conservateurs, les nationaux allemands, le DNVP, qui en fait, jusqu'à très tard dans les années 20, sont beaucoup beaucoup plus importants que les nazis, qui eux sont un petit groupement. Quelques éléments d'ordre de grandeur. Je pense que le meilleur moyen de montrer à quel point le nazisme à l'époque est périphérique politiquement, c'est de se souvenir qu'aux élections de mai 1928, aux élections législatives pour le Reichstag, les nazis font 2,6%. À l'époque, le grand parti conservateur, il fait 15-20%. Donc attention à trop regarder les choses de manière anachronique, on grossit le phénomène nazi. Mais si on dit ça, on a l'impression qu'on tombe dans, en fait, dans une deuxième ornière qui est de considérer que le nazisme serait sorti tout droit, avec bottes et casques, de la crise de 29. Si en 28 ils sont si faibles, il faut bien qu'il y ait une cause qui les ait fait monter si haut, et cette cause c'est la crise économique de Wall Street en 1929, qui a dégouliné dans l'économie allemande pour créer un chômage de masse. Or c'est pas tout à fait vrai, dans ces années-là le parti nazi c'est quasiment rien. Alors oui, le putsch de la brasserie le 8-9 novembre 1923, ça va donner une stature nationale à Hitler, mais pour autant, le putsch n'est d'ailleurs pas celui d'Hitler, on parle du putsch de Ludendorff, qui est la personne la plus connue à l'époque. Mais ce que malgré ce côté périphérique, ces années de lutte et de militantisme un peu arides, il faut le dire, à l'époque les nazis, voilà, c'est des réunions où certes il y a quelques centaines de personnes, mais le parti nazi compte, alors au début des années 20, 3000 militants et à la fin 50 000, ce qui n'est pas beaucoup. Ces années-là, malgré tout, elles sont les années de la formation de la culture nazie, de cette culture militante. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parler de culture au sens de haute culture, de connaissance. La vision du monde nazi, elle est aussi brutale que bête, si on veut dire. Mais culture au sens de pratique aussi. C'est-à-dire que c'est dans ces années-là que les nazis vont mettre en place l'uniforme, la svastika, une certaine manière d'occuper l'espace public, une certaine manière d'exercer la violence contre les opposants politiques. Et d'une certaine manière, cette culture politique qui est créée dans les crises de 1918-1920, elle redevient opérationnelle au moment de la crise de 29. C'est-à-dire que les codes, les manières de faire inventées par les nazis dans leur militantisme vont finir par fonctionner, mais 10 ans plus tard. Et c'est ça qui permet de dire que les nazis ne sont pas l'émanation de la Grande Guerre de 14-18, mais bien une politisation. Il y a 10 ans qui passent pour que ces méthodes radicales finissent par parler, et elles ne parlent pas aux anciens combattants, elles parlent à la génération d'après, ces jeunes hommes qui vont être touchés par la crise de 29 et le chômage de masse.
C'est dans l'Allemagne de la République de Weimar que s'inventent les signes d'expression du nazisme. Les chemises brunes, leur salut caractéristique avec ce bras tendu, cette organisation d'emblée militaire dans l'espace public et dans leur rassemblement. Nicolas Patin, co-auteur du livre « Le monde nazi » paru aux éditions Talendier.
Les nazis n'ont pas inventé leur politique de communication. Il y a une Europe des chemises noires, puisque c'est Mussolini qui invente, alors il n'invente rien, il vole à Gabriele D'Annunzio cette chemise noire comme signe de reconnaissance. Ces chemises vont ensuite devenir l'apparat de l'ensemble des mouvements fascistes européens, qu'on pense à la garde de fer roumaine, aux croix fléchées hongroises. Et donc Hitler, là-dessus, n'est pas très original. Il copie Mussolini en prenant les chemises brunes, notamment pour les sections d'assaut, hein, les Sturmabteilung. De ce point de vue-là, quelle est l'utilité de tout ça ? Encore une fois, il ne faut pas exagérer l'originalité des nazis. À l'époque, c'est George Moss qui le dit hein, dans son livre sur la brutalisation, l'ensemble des champs politiques européens connaît une forme rampante de militarisation. C'est-à-dire que les anciens combattants, quand ils rentrent des tranchées, ils vont tracter dans l'univers politique, qui est un univers civil normalement, en tout cas avant la guerre, ils vont tracter un ethos, une manière de faire militaire, des symboles, une virilité combattante. Alors parfois, ça peut être encore une fois à gauche, au centre, etc. Mais on ne peut pas ne pas voir que partout, l'Europe se couvre de chemises d'anciens combattants et d'une certaine militarisation. On oublie, hein, mais dans des pays où le droit de vote n'a pas été accordé aux femmes, par exemple la France, les anciens combattants représentent parfois 50-60% du corps électoral. Donc c'est des forces considérables du point de vue politique. Les nazis vont prendre tout ça et ils vont le pousser à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils vont notamment proposer cet uniforme, le drapeau, la camaraderie virile à la génération d'après, c'est-à-dire à des jeunes hommes qui n'ont pas fait 14-18. Et on voit là l'usurpation totale qu'il y a à faire ça, c'est dire à des jeunes hommes qui sont nés entre 1900 et 1905, qui ont vu leurs grands frères et leurs pères mourir, combattre dans les tranchées, leur dire, si tu t'engages au parti nazi et que tu mets la chemise brune et que tu arbores la svastika, la croix gammée, tu seras toi-même un soldat politique. Et ça, ça va séduire, alors au début des années 20, encore une fois, très peu de gens, des jeunes hommes, en mal d'aventure nationaliste et de coups de poing contre les opposants politiques. Mais au moment où la crise de 29 déferle sur l'économie allemande et brise en fait la République de Weimar, cette espèce de message de combat pour la survie et de lutte contre les rouges va séduire une certaine partie de la jeunesse masculine et bourgeoise.
Les rues de Berlin dans les années 20, c'est d'ailleurs fréquemment ça. De petits groupes politiques, communistes ou nazis, et une multitude d'autres encore qui pratiquent la rixe, la bagarre, le coup de poing comme activité, et pas seulement les samedis soirs.
La violence n'est pas qu'une théorie, c'est avant tout une pratique, et les historiens et les autres chercheurs ont tendance à beaucoup théoriser en essayant d'en faire une chose très intellectuelle, ce qu'elle est parfois. Mais il faut bien se rendre compte que chez les nazis comme chez d'autres, la violence est avant tout une pratique sociale qui permet de se serrer les coudes et de faire groupe. Pour ce qui est des origines de tout ça et de l'originalité du nazisme, cette violence-là, elle vient, à mon avis, de trois sources. La première, encore une fois, c'est 14-18. C'est-à-dire que, toujours George Moss, dans sa théorie sur la brutalisation, nous explique qu'il y a une banalisation de la mort. Les hommes dont on parle, quand ils ont fait 14-18, ont vu des blessés graves, des cadavres pendant 4 ans. Ça, c'est le côté émanation de 14-18. Il y a une deuxième chose, le fascisme italien, qui est à l'origine quand même des mouvements fascistes européens, utilise la violence politique, notamment à travers le squadrisme, c'est-à-dire les fondations du mouvement fasciste italien viennent du squadrisme et donc des pratiques de violence de l'extrême droite italienne envers les opposants italiens du Biennio Rosso, les ouvriers qui occupent les usines. Et là, on retrouve tout un répertoire, battre les ennemis à coups de bâton, faire boire de l'huile de ricin, etc. Donc ça, ça va servir aussi de modèle. Et puis la troisième chose, je pense, peut-être plus spécifique au nazisme, c'est que dans la conception du monde nazi, il y a une très forte empreinte, peut-être plus que dans les mouvements des autres pays, du darwinisme social, de la lutte des races et de l'idée que toute vie est un combat racial entre les Aryens et les ennemis potentiels, les Juifs étant le principal. De ce point de vue-là, se battre, y compris physiquement et corporellement, est bien vu, forcément, puisque la vie est un combat, il faut le prouver. Et on voit aussi se développer ici une culture virile très très puissante qui, il faut le rappeler, on lit parfois, et c'est vrai, que le Troisième Reich, une fois que les nazis sont au pouvoir, a été soutenu par les femmes. Mais avant 1933, le parti nazi est à 96% constitué d'hommes. Donc on est dans une communauté masculine qui éprouve son soi-disant courage dans la violence et l'action violente. Si on regarde de l'autre côté du champ politique, cette militarisation et cet exercice de la violence, elle existe aussi. Par exemple, dans le Parti communiste, on a l'association d'anciens combattants qui est aussi un groupe armé du Parti communiste allemand qui s'appelle le Roter Frontkampfverbund, l'Union des anciens combattants rouges. Sauf que cette violence, il faut toujours être très précis dans les comparaisons, elle vise avant tout à se défendre des attaques des nazis et des fascistes et à préparer la conquête armée du pouvoir, c'est-à-dire la révolution. Donc on a des camps d'entraînement rouges pour une éventuelle révolution qui n'arrivera jamais d'ailleurs, mais c'est pas tout à fait la même violence. Et ce qui est spécifique chez les nazis, c'est vraiment, et ça on le voit peu dans les livres et on a essayé un peu de le dire, c'est une violence de l'intimidation. C'est-à-dire que cette violence, elle a une fonction macroscopique et microscopique. À l'échelle des petites villes allemandes, la présence de l'occupation de la rue par des hommes en uniforme, jeunes, capables de faire le coup de poing, est une intimidation. Et en fait, travaille à une simplification extrêmement radicale du champ politique. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Et ça, c'est l'échelle micro. Ça a été bien montré, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Une petite ville nazie », qui est très intéressant. Mais de l'autre côté, ça marche aussi à l'échelle macro, parce que cette occupation de l'espace public, les nazis le font aussi en politique, donc plus dans la crise de la fin des années 20, en disant, bah voilà, c'est la même chose, c'est nous ou les rouges. Et cette simplification du champ politique, malheureusement, elle va pas mal fonctionner.
Des groupuscules politiques pullulent en Allemagne dans les années 20, et pourtant celui qui devient un parti, qui emporte les élections, et bientôt l'Allemagne tout entière, c'est le parti nazi. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier. En mars, il obtient du Reichstag les pleins pouvoirs. Nicolas Patin.
Là, on rentre donc dans la crise à prise extrêmement rapide de la fin des années 20. Parce qu'encore une fois, sans être stationnaire, l'évolution du parti nazi entre sa fondation en 1919 et, on va dire, vraiment 1929, il y a 10 ans d'une quasi-traversée du désert, mais pas que, dans la mesure, encore une fois, esculptée dans ces années-là la culture militante nazie. Et puis, malgré tout, aussi du fait de la pugnacité d'Hitler et d'un certain nombre d'élites nazies, aussi du fait de la réelle réussite démagogique d'Hitler encore dans ses discours, les nazis vont quand même réussir à, on va dire, phagocyter l'extrême droite de l'extrême droite, et donc ce milieu vraiment folkish. Ils vont réussir quand même à triompher d'un certain nombre d'autres groupuscules par la pugnacité des dirigeants nazis. Mais ça, encore une fois, quand on regarde, que ce soit en termes de votants, 2,6%, ou en termes de militants, 50 000, c'est rien du tout. 50 000, ça peut impressionner aujourd'hui, mais à l'époque, les grands partis politiques comme le Parti communiste ou le Parti socialiste ou même le Parti conservateur des nationaux allemands, ils ont 1 million de membres. 800 000 membres. C'est énorme. Donc le parti nazi en 28, c'est rien. La crise de 29 intervient. Cette crise de 29, elle frappe très directement l'Allemagne, parce que, pour plusieurs raisons, mais on va en donner deux principales. La première, c'est que du fait des remboursements des crédits de guerre et donc de la défaite, l'Allemagne est sous perfusion des capitaux américains. La deuxième chose, c'est que l'économie allemande repose sur des très grandes unités industrielles. Il y a une forte concentration, celle des concernes, qui fait que quand on licencie en Allemagne, on licencie à coup de 2 000, 3 000, 15 000 salariés, 15 000 ouvriers. Donc il y a une économie qui est moins résiliente, par exemple, que celle de la France. À partir de là, et de l'écroulement non seulement économique, mais comme par un jeu de domino politique de la République de Weimar, la crise va très vite. Et effectivement, là où les nazis vont se montrer efficaces, c'est qu'ils arrivent, peut-être mieux que les autres, à récupérer les fruits politiques de cette crise. Le régime weimarien, la République, se bloque dès mars 1930, donc avant la grande victoire électorale nazie, qui a lieu en septembre. Et à partir de là, il y a un réel ras-le-bol de la politique d'austérité qui est menée par le chancelier Heinrich Brüning. Ce qui fait qu'on arrive en septembre 1930, il y a une dissolution du Reichstag et une nouvelle élection. Et là, c'est le cataclysme. C'est-à-dire que le parti nazi qui faisait 2,6% deux ans auparavant arrive à 18,3% et devient le deuxième parti de la République. Et là, on a un détail qui n'en est pas un. C'est à partir de cette victoire électorale-là que les militants vont affluer au parti. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette espèce de coup de poker électoral de l'élection du 14 septembre 1930, et à partir de là, les nazis ont le vent en poupe, ils vont vider l'extrême droite puis la droite de leur substance, et en très peu de temps, ils vont réussir à se montrer comme la solution du moment. Parce qu'il faut bien se rendre compte que cette temporalité-là, on est aujourd'hui installé dans des crises politiques durables, que quand on parle de populisme, de fascisme, d'illibéralisme, dans tous les pays qu'on analyse aujourd'hui, c'est des crises qui parfois durent 5, 10, 20 ans. À l'époque, entre le crash boursier de 1929 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, vous imaginez bien qu'on a à peine 3 ans et 3 mois. Par ailleurs, ça se passe pas de manière toujours extrêmement simple, c'est-à-dire qu'à plein de moments, le parti est traversé par des tensions extrêmement forte, il y a même des révoltes. Je pense à l'une qui n'est pas très connue, mais qui est la révolte de Stenz en 1931, où une partie du groupement nazi, du mouvement hitlérien, est à la limite de faire sécession. Donc voilà, tout ne s'est pas joué d'une manière extrêmement linéaire, mais en tout cas, la rapidité de la crise a joué au profit des nazis.
De groupuscule à parti majoritaire et bientôt unique, le nazisme évolue en gagnant du terrain. Ses militants restent, on quitte très rarement le parti, mais leur sociologie évolue avec leur nombre.
Dans le mouvement nazi, il y a une idée de pureté, c'est-à-dire qu'il faut des militants, il en faut beaucoup, mais il faut des militants qui soient de réels fanatiques. Le mot fanatique, pour les nazis, est un mot positif. Et donc, Hitler donne des directives très claires, et d'ailleurs, c'est même écrit noir sur blanc dans Mein Kampf, hein, dans un chapitre qui s'appelle « Propagande et organisation ». D'un côté, la propagande doit ramener des militants, mais l'organisation doit les trier pour être sûr de la pureté et de la fiabilité de ces militants-là. Donc le parti nazi, en 1930, il est un peu pris au dépourvu, mais assez rapidement, aussi parce qu'il y a une culture militaire derrière, une culture de l'autorité, il va canaliser ce flux-là pour transformer la crise en un outil de guerre politique, notamment au sein des sections d'assaut, qui passent à 500 000 militants, dès, en gros, en 1932. Et ces sections d'assaut-là, les Sturmabteilung, les chemises brunes, sont un outil de plus dans la stratégie nazie parce que, et c'est là où on ne peut pas dire que les nazis sont arrivés légalement au pouvoir, ils se sont fondés sur un certain nombre de victoires électorales, oui, mais à côté de ça, ils avaient aussi cette armée révolutionnaire que sont les sections d'assaut et qui représentaient une véritable menace de guerre civile. On a deux exemples pour le prouver, outre l'existence même de ces sections d'assaut. Dans un moment très particulier, le 31 juillet 1932, il y a eu une nouvelle dissolution de l'Assemblée, encore. Les nazis n'obtiennent plus seulement 18,3% des scores, mais 37,3%. Et il y a une anecdote importante. À ce moment-là, Hitler va voir le président de la République. Et ce président, c'est Paul von Hindenburg, le grand général de la victoire de Tannenberg en 1914. On peut d'ailleurs s'arrêter là en se disant qu'une République qui a pour président un ancien général ultranationaliste, pas tout à fait républicain, c'est déjà un problème. Hitler se présente devant Hindenburg. Ils ont 40 ans d'écart. En termes de grade militaire, c'est vraiment le sommet et les abîmes, puisque Hitler, c'est un petit caporal. Et Hitler demande la chancellerie. Et Hindenburg lui dit non. Non pas qu'il ne soit pas d'accord avec ses idées, mais il ne veut pas lâcher le pouvoir. Et il lui dit quand même... Attention, je sais que vous avez cette armée révolutionnaire et je frapperai durement face à une tentative de déstabilisation militaire. Donc même Hindenburg a conscience que Hitler peut renverser le pouvoir. Et le deuxième exemple, c'est en décembre 1932, le ministre de la guerre essaye de voir si l'État de Weimar serait en mesure de tenir face à une tentative de coup d'État des nazis ou des communistes ou des deux en même temps, et le résultat est clair, la République de Weimar n'est pas en mesure de résister en cas de coup d'État par les nazis. Donc on voit bien que là, cette stratégie-là, c'est une stratégie électorale, et malheureusement, les nazis font merveille, enfin, en tout cas, ils conquièrent jusqu'à 37% des voix, mais il y a toujours la menace de cette guerre civile via les sections d'assaut. Donc on a une forme composite de prise du pouvoir, et il faut y rajouter évidemment la compromission des élites politiques, puisqu'il ne faut pas croire que parce que Hindenburg a dit non une fois, il ne va pas dire oui la fois d'après, et il dit oui la fois d'après, puisqu'en janvier, il donne le pouvoir à Hitler.
Merci à Nicolas Patin. Dans le prochain épisode, les promesses nazies à la société allemande. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Samuel Morier-Genoux à la réalisation. C'est aussi en images sur RTS 1 et RTS 2, le dimanche et le mardi soir.